Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'infos, de débats et de points de vue. Et ce soir, on parlera de cette révolution qui s'annonce dans l'aérien. Airbus nous promet des avions non polluants à l'hydrogène et cela d'ici 15 ans. Fini le carburant dans la soute. Alors à quoi ressembleront-ils ces avions précisément? On posera la question à Jean-Brice Dumont, il est vice-président exécutif de l'ingénierie chez Airbus. Et en attendant les avions non polluants, c'est la politique qui agite aussi l'actualité. Voilà que Xavier Bertrand et Anne Hidalgo font un pas de plus vers 2022. Alors peuvent-ils jouer les troubles fêtes? On en parlera tout à l'heure avec les grandes voix à 18h30. Et puis entre 19h et 20h, c'est le Club des idées d'Europe Soir, votre nouveau rendez-vous pour comprendre le monde qui change. Ce soir, un plateau exceptionnel à l'occasion de la diffusion à 21h sur France 2 de la série événement Laetitia. Cette jeune fille sauvagement assassinée en 2011 par Tony Meillon, l'affaire avait indigné la France. Alors aujourd'hui, où en est-on du suivi des multirécidivistes et de la protection des enfants? On en débattra avec nos invités. Mais avant cela, l'info avec le journal présenté ce soir par Simon Rubin. Bonsoir.
Bonsoir.
Il est 18h et vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Ça fait depuis vendredi que je passe des coups de fil au laboratoire. Impossible d'avoir un rendez-vous pour faire le test. Et là, j'arrive ce matin, tout de suite, ils m'ont pris.
Bientôt la fin de la galère des tests Covid. En tout cas, 7 nouveaux centres de dépistage ouvrent en Île-de-France aujourd'hui. Double objectif, obtenir des rendez-vous plus vite et des résultats plus rapidement. On vous emmène dès le début de ce journal dans l'un de ces nouveaux établissements.
Vous entendrez également la colère de ces madrilènes qui ont reçu l'ordre de se confiner à nouveau. 800 000 personnes en banlieue de Madrid.
Deux ministres peuvent-elles faire plier le géant mondial Bridgestone? Les ministres du Travail, Elisabeth Borne, et de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, sont à Béthune aujourd'hui pour une réunion de crise et éviter la suppression de 863 emplois.
L'aviation, zéro émission à l'horizon. Airbus annonce donc son projet d'avion à hydrogène, plus respectueux de l'environnement. On va vous expliquer en quoi consiste ce virage stratégique.
Nathalie Roré devrait devenir la nouvelle directrice de l'École nationale de la magistrature, choisie par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Il s'agit d'une double première. Première femme à diriger cette école prestigieuse et première avocate à ce poste. On va vous expliquer pourquoi cette nomination est très loin d'être anodine.
Et puis à la fin de ce journal, hommage à l'acteur Michael Lonsdal. Il avait joué pour les plus grands réalisateurs Truffaut, Mocky, René. Il est mort à l'âge de 89 ans.
La bourse de Paris, elle termine ce soir en baisse de 3,74%, notamment en raison des craintes liées au Covid-19.
La tendance météo avec Anissa, une France coupée en deux demain.
Avec la Loire comme frontière et pour une fois, il vaudra mieux être au nord. Dans le sud, c'est encore très agité demain. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Vous l'avez peut-être constaté vous-même ou autour de vous. Aujourd'hui, il est extrêmement difficile de se faire tester au Covid-19. Laboratoire plein à craquer, file d'attente interminable et surtout des résultats qui tardent parfois. Voilà pourquoi l'ARS d'Île-de-France ouvre dès aujourd'hui 7 centres de dépistage et de diagnostic dans la région.
Victor Delande, vous avez visité l'un de ces nouveaux centres. Les objectifs sont clairs, des centres qui doivent permettre de faciliter l'accès aux tests, mais aussi d'obtenir des résultats plus rapidement pour les personnes privées.
Oui, c'était l'un des objectifs fixés par le ministre de la Santé, Olivier Véran, la semaine dernière. Ne surtout pas laisser les personnes avec des symptômes et les cas contacts pendant plusieurs jours sans résultat. Plusieurs jours pendant lesquels ils peuvent potentiellement contaminer d'autres personnes. Et depuis ce matin, donc, ce sont les patients qui ont des symptômes qui étaient invités à se présenter devant ce centre. Oscar, tous depuis vendredi, de la fièvre, des courbatures. Il n'a presque pas fait la queue pour être testé, il en était même surpris.
Très efficace, oui. Je suis assez étonné d'ailleurs.
Pourquoi, c'est vrai?
Parce que ça fait depuis vendredi que je passe des coups de fil au laboratoire, que je vais les voir. Impossible d'avoir un rendez-vous pour faire le test. Et là, j'arrive ce matin en me disant « bon, je vais essayer ». Et puis tout de suite, ils m'ont pris.
Ouais. Pour bien s'assurer que des personnes ne mentent ou n'exagèrent leurs symptômes, des médecins remontent les files d'attente et posent toute une série de questions. Les résultats doivent arriver dans 48 heures, c'est encore trop, mais dans une dizaine de jours, ce sera 24 heures, comme l'affirme Aurélien Rousseau, directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France.
Tout le sujet pour les labos, c'est de pouvoir prévoir les files de résultats qui arrivent sur leur plateforme et d'identifier ces tests prioritaires. Donc c'est ce qu'on est en train de faire et je pense qu'on va en tout cas faire baisser significativement les délais avec une cible, mais une cible qui n'est pas à moyen terme, qui est à très court terme, de tenir ce délai de 24 heures.
Rappel important pour le grand public, l'accès aux tests dans ces nouveaux centres se fait exclusivement sur présentation d'un justificatif, une prescription médicale en cas de symptômes, un SMS de l'assurance maladie qui atteste bien que vous êtes cas contact ou un justificatif de travail si vous êtes professionnel de santé.
Victor Dolande et 20 centres de ce genre doivent ouvrir d'ici 2 semaines en Île-de-France, une expérience qui pourrait aussi inspirer d'autres régions.
Et puis aujourd'hui, le préfet du Rhône annonce à son tour un serrage de vis. Les grands rassemblements seront désormais limités à 1000 personnes. Les visites, limitées également dans les EHPAD, et puis le port du masque obligatoire est étendu à 10 communes proches de Lyon.
Et on le sent, hein, ces mesures sont prises avec en toile de fond la menace d'une deuxième vague de potentiel reconfinement. Et de reconfinement, il est justement question en Espagne aujourd'hui. Plus de 800 000 personnes qui habitent les banlieues et grandes banlieues de Madrid et qui doivent dès aujourd'hui se confiner à nouveau dans leur quartier.
Henri de Laguérie, vous êtes justement notre correspondant en Espagne. C'est un reconfinement qui provoque, disons-le, hein, la colère et le ressentiment car il concerne essentiellement les quartiers populaires.
Oui, effectivement, et à l'entrée de Vallecas, l'un de ces quartiers reconfinés, la police contrôle les véhicules depuis ce matin. On ne peut plus sortir du quartier sauf pour aller travailler ou en cas de force majeure. Paco, retraité, vit du mauvais côté de l'avenue. Il n'a pas le droit de se promener en centre-ville, une injustice selon lui.
Après avoir été enfermé plus de 100 jours à la maison, ils sont en train de me dire que je ne peux pas aller dans le quartier en face. C'est quoi ce foutoir? Pourquoi ils ne me laissent pas passer?
Pourquoi ne me laissent pas passer?
Pour les habitants, ce reconfinement ciblé ne sert qu'à masquer la gestion défaillante du gouvernement régional. Beaucoup y voient une forme de stigmatisation. Nous ne sommes pas des lépreux, lance loin un passant à la police. De surcroît, pour Inès, étudiante, ces mesures sont inefficaces dans un quartier où le télétravail est impossible.
On confine le quartier du Sud, mais les personnes doivent aller travailler dans le métro, dans le train, dans les bus qui sont avec beaucoup de personnes. Et ça ne résout pas le problème. On ne met pas des mesures en place pour vraiment freiner les virus.
Les habitants réclament plus de personnel soignant, plus de tests, un meilleur traçage des cas contacts. Dans ces quartiers très denses, on enregistre autour de 1200 cas pour 100 000 habitants. C'est un record en Europe.
Henri de Laguérie en direct de Madrid. Deutsche Bank, ING, HSBC, de grandes banques internationales qui ont plongé en bourse aujourd'hui. Et la raison, la publication d'une vaste enquête d'un consortium de journalistes qui révèle de nombreuses activités suspectes et même des cas de blanchiment d'argent. On en parle tout à l'heure dans le journal de 19h.
Deux ministres peuvent-elles empêcher la suppression de 863 emplois? C'est en tout cas l'objectif d'Elisabeth Borne et d'Agnès Pannier-Runacher en charge respectivement du travail et de l'industrie.
Les deux ministres ont réuni élus locaux, syndicats, représentants du groupe japonais Bridgestone pour ce qu'on pourrait appeler une opération de sauvetage. Les négociations sont lancées. Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie, indique aussi que le gouvernement va mandater un cabinet de conseil pour contre-expertiser l'ensemble des scénarios qui ont été étudiés par Bridgestone avant la fermeture de l'usine.
Nous sommes convenus de faire dans deux à trois semaines, une réunion pour justement revoir les différents scénarios alternatifs à une fermeture de site. Parce que nous ne voulons pas tomber dans la fatalité et nous résoudre à, cette décision qui appelle certainement une contre-expertise. Et c'est tout ce qui nous anime aujourd'hui, c'est d'avoir des avancées importantes. C'est que les salariés de Bridgestone aient un emploi dans un an, dans deux ans, dans trois ans. On peut le faire de différentes manières, mais le premier scénario sur lequel nous voulons travailler, c'est avec Bridgestone.
Propos recueillis par Lionel Gougelot.
Et après les pneus aériens, si vous pouviez prendre l'avion sans vous soucier des conséquences écologiques, on le sait, alors que le monde fait face à une catastrophe environnementale, le secteur aérien doit relever un défi immense, maintenir son service, dont il est difficile de se passer, et en même temps respecter la planète.
Et la solution est peut-être proche. On ne vous parle pas ici d'un énième projet abstrait, on vous parle d'un avion à hydrogène, projet présenté par Airbus, un avion neutre en émissions et qui pourrait voir le jour, Aurélien Fleureau, dans 15 ans.
Oui, objectif 2035, Airbus veut devenir le premier constructeur à mettre en service un avion à hydrogène. Et pour ça, le groupe a présenté aujourd'hui trois concepts. Un turboréacteur pour les vols long courriers, capable de transporter jusqu'à 200 passagers. Il sera alimenté par une turbine à gaz modifiée qui fonctionne donc à l'hydrogène au lieu du kérosène. Deuxième concept, un turbopropulseur, plutôt court courrier jusqu'à 100 passagers. Et puis un concept d'aéronef dont le large fuselage permettrait de stocker suffisamment d'hydrogène. Airbus se donne encore 5 ans pour retrouver la meilleure technologie. Ensuite, il faudra trouver les fournisseurs, les sites industriels. Mais il restera quelques défis. D'abord, la production d'hydrogène vert, énergie issue d'énergie renouvelable et non plus d'énergie fossile. Et puis, il faudra adapter les infrastructures, notamment les aéroports habitués depuis des dizaines d'années à transporter du kérosène, rappelle Eric Schulz, spécialiste de l'aéronautique.
quand vous allez sur les gros aéroports, hein, Roissy par exemple, le kérosène arrive directement aux avions via des conduites souterraines. C'est toute une infrastructure qui demain matin sera complètement obsolète le jour où on voudra tourner la page et passer à l'hydrogène. Et cette infrastructure-là, elle demande des déploiements d'efforts énormes et des investissements massifs.
Et au total, Airbus va investir plusieurs dizaines de milliards d'euros sur ce programme zéro émission.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1 et par ailleurs le directeur général d'Air France KLM estime aujourd'hui que les aides d'État, des États français et néerlandais permettront de tenir au moins 12 mois. Air France qui a reçu pour rappel 7 milliards d'euros d'aide.
Oui, on va continuer à en parler de l'aérien à 18h20 avec notre invité ce soir, le vice-président d'Airbus, Jean-Brice Dumont. On a plein de questions évidemment à lui poser.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h11, la suite de votre journal avec Simon Rubin. Un geste qui ne va sans doute pas apaiser les tensions. Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, s'était déjà mis à dos une partie de la magistrature ces derniers jours en demandant l'ouverture d'une enquête disciplinaire à l'encontre de trois magistrats du parquet national financier.
Et cette fois, il propose une avocate à la tête de l'ENM, l'École nationale de la magistrature. En l'occurrence, Nathalie Roré et Guillaume Bié. C'est une première à plus d'un titre.
Oui, première fois qu'une femme est proposée à ce poste, mais au-delà, c'est surtout la première fois qu'il ne s'agit pas d'une magistrate. Nathalie Roré est avocate, pénaliste, expérimentée, comme Éric Dupond-Moretti. C'est l'actuelle vice-bâtonnière du barreau de Paris. Ce choix, c'est un symbole fort, une volonté d'ouverture, souligne le garde des Sceaux.
L'ouverture, c'est d'abord rompre avec des traditions surannées. C'est rompre avec la tentation du vase clos et de l'entre-soi. L'ouverture, c'est encore renforcer l'apprentissage chez les futurs magistrats d'une vraie culture du contradictoire. L'idée, c'est d'abord d'ouvrir cette école et de dépoussiérer un certain nombre de choses qui me semblent passéistes et qui aujourd'hui ne sont plus de mise.
Pour les magistrats, c'est un véritable tournant à venir. Une annonce fraîchement accueillie par leur syndicat, déjà très remontée après l'enquête ouverte sur le parquet national financier. Même l'École nationale de la magistrature a réagi par un communiqué dans lequel elle souligne que les avocats sont déjà des partenaires de l'ENM et elle rejette entre les lignes les accusations d'entre-soi et de corporatisme. Et
Guillaume Bié du service police-justice.
Et puis la disparition d'un visage du cinéma et du théâtre. L'acteur Michael Lonsdale est décédé aujourd'hui à l'âge de 89 ans. Il avait joué notamment au cinéma pour Truffaut, pour Jean-Pierre Mocky ou encore pour Alain Resnais.
Et vous avez peut-être en tête cette carrure assez massive, imposante, un peu voûtée, cheveux longs, barbe blanche. Et puis, Diane Chenouda, Michael Lonsdale, c'est aussi une voix. Et quelle voix ?
Ah oui, une voix chaude, vibrante, qui en disait long hein, sur sa sensibilité. On va l'entendre, cette voix de Michael Lonsdale, qui était aussi profondément croyant, au micro de Nico Saliagas. Il faisait le parallèle entre sa foi chrétienne et son métier d'acteur.
Beaucoup de nos plus grands acteurs étaient très croyants. Et oui, c'est un métier de don de soi et on Absolument. Est chargé de redonner vie, corps et voix et regard à un personnage.
Et il en a joué des personnages, plus de 200 rôles au cinéma. On se souvient de Michael Lonsdale comme le moine dans Le Nom de la Rose et surtout, bien sûr, de son interprétation bouleversante de Frère Luc dans Des Hommes et des Dieux, l'un des moines de Tibérine assassiné.
J'ai pas peur, moi, des terroristes et encore moins de l'armée. Je crains pas la mort non plus, je suis un homme libre.
Michael Lonsdale a tourné avec les plus grands, Orson Welles, vous l'avez dit, François Truffaut, Buñuel, Spielberg, avec Gérard Oury dans Le Crime ne paye pas. On le retrouve aussi bien dans les films d'auteur que dans les super-productions hollywoodiennes. Il joue le méchant dans Moonraker, un James Bond, et avait même fait une apparition dans Hibernatus aux côtés de Louis de Funès.
Ah, je m'en souviens pas de ça, mais c'était vraiment un super acteur.
Hein. Ah, oui, ah, oui, d'une humanité bouleversante.
On entendra d'ailleurs le témoignage de Lambert Wilson, qui a joué avec lui dans Des Hommes et des Dieux, témoignage poignant dans le journal de 19h. Merci Diane Chenouda.
Il avait 89 ans d'ailleurs.
Non, c'est vrai.
Merci
mais écoutez,
en tout cas
voilà.
Pour ce beau portrait, ce parcours. La tendance météo avec vous, Anissa. Alors demain, nous sommes officiellement en automne.
Oui.
Bah, là autre chose.
Bah si, sur le calendrier, Julien. Demain, mardi 22 septembre, ça y est, nous sommes en automne. C'est l'équinoxe. Ça veut dire que demain, mardi, la durée de la nuit sera égale à la durée du jour. Bon, ça, c'était pour les révisions de primaire. Dans le ciel aussi, nous allons changer de temps et changer de saison demain.
Et puis dans 3 mois, c'est Noël.
C'est ça, dans 95 jours. Et pour les régions du sud, donc sur les régions qui se situent toutes au sud
sud de la Loire. Demain, le temps est encore agité. De la pluie pour tout le monde. Même sur le Massif central, les Alpes et le Var, des orages en début de journée. Sur les Pyrénées et le Roussillon, là, le temps est sec. Et puis sur la moitié nord, beaucoup de brouillard demain matin. Mais après la dissipation de ces nuages bas, il va faire très beau sur la moitié nord. Dans l'après-midi, toujours sur la moitié sud, nous aurons des orages qui vont se multiplier avec demain en Auvergne, sur le Poitou-Charentes, sur les Pyrénées, sur les Alpes et la Côte d'Azur, des orages localement forts. Et puis sur la moitié nord, c'est toujours du beau temps. Hein. Sur les Hauts-de-France, la région parisienne et les Ardennes, profitez-en, c'est la dernière journée d'été. Alors les températures, elles commencent à baisser avant une chute très nette des températures pour jeudi. Ah, on va perdre 10 degrés, hein, presque.
Là, cette semaine.
Ouais, jeudi. Alors demain, nous aurons 6 à 18 degrés demain matin. Et puis dans l'après-midi, ça va déjà bien baisser avec 17 à Aurillac, 20 à Brest, 22 à Bordeaux, 24 à Marseille et Lyon. On avait plus de 30 degrés il y a quelques jours. 26 pour Ajaccio, 27 à Paris. Et la maximale est prévue pour Metz avec 28 degrés.
Vous vous débrouillez, vous m'appelez Météo France et vous revenez avec des bonnes nouvelles tout à l'heure à 19h.
Ouais, je suis
merci,
pas sûr.
Merci Anissa.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Avec notre invité ce soir à 18h20, il est l'un des patrons du plus important fabricant d'avions au monde et il annonce, c'est une révolution, la construction d'un appareil complètement décarboné, c'est-à-dire non polluant, à l'horizon 2035. Bonsoir Jean-Brice Dumont, vous êtes vice-président exécutif de l'ingénierie chez Airbus. Cet avion, il fonctionnera, dites-vous, à l'hydrogène. Alors d'abord, peut-être un mot pour les non-initiés de cette technologie qu'est l'hydrogène. Dites-moi si j'ai bon, c'est un gaz très abondant dans la nature qui peut produire beaucoup d'énergie, une quantité énorme. J'ai vu qu'il pouvait produire 3 fois plus d'énergie qu'un kilo d'essence.
Bonsoir, eh bien, vous avez tout bon. L'hydrogène est effectivement... Ah oui, ça part bien. L'hydrogène est effectivement un autre type de carburant qui, intrinsèquement, possède 3 fois plus d'énergie pour un kilo donné que le kilo de kérosène.
Bien, et qui ne rejette évidemment aucun polluant dans l'atmosphère, c'est-à-dire pas de CO2 ou presque pas, uniquement de l'eau.
Il rejette de l'eau et pas de CO2. Forcément, l'hydrogène ne contient pas de carbone, donc il va se mélanger avec l'oxygène et produire de l'eau. Il rejette par ailleurs quelques-uns des autres éléments que rejette un avion, mais en bien moindre quantité. Et c'est d'ailleurs ce que nous devons vérifier avec les projets de recherche que nous avons lancés.
Alors, Jean-Brice Dumont, concrètement, pour les gens qui nous écoutent, et ils sont nombreux à prendre l'avion, à quoi vont-ils ressembler ces nouveaux appareils? Est-ce qu'ils auront toujours 2 ailes, un cockpit et des gros réacteurs de chaque côté?
Alors, c'est une bonne question. C'est justement l'objet de l'annonce du jour. L'hydrogène, qui est effectivement quelque chose de très énergétique, comme on vient de le dire, a 2 caractéristiques. Il est beaucoup plus volumineux que le kérosène, 4 fois plus.
Beaucoup plus de place.
Oui, il prend plus de place. Et on doit le transporter dans sa version liquide, qui est cryogénique, on va dire, à moins 250 degrés, comme ce que vous avez l'habitude de voir plutôt dans des hôpitaux. Donc c'est quand même des contraintes d'emport qui peuvent éventuellement changer la forme de l'avion pour arriver à accommoder un carburant qui n'est pas sous les mêmes formes et avec les mêmes contraintes que le kérosène aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce qu'on a révélé, c'est 3 concepts d'avion, on dit concept plane, deux étant des dérivés de ce qui ne surprendrait pas vos yeux, un qui ressemblerait à un avion à turbopropulseur, à hélice avec des ailes hautes, pour vous l'illustrer le plus possible par oral, un autre avec des ailes basses et des réacteurs, et le troisième qui est celui qui finalement accommoderait le mieux l'hydrogène, qui est une aile volante.
Mais ça veut dire que vous proposez 3 appareils, mais vous ne savez pas encore lequel vous allez choisir pour le vendre aux compagnies aériennes comme Air France, comme KLM, comme British Airways, comme toutes les autres, parce que 2035 c'est quand même demain.
Bah, c'est demain et c'est loin à la fois. Donc d'ici 2035, on a besoin de mûrir quel sera le bon concept. Et c'est pour ça qu'on en a lancé 3. Et c'est pour ça qu'on étudie toutes les technologies autour de l'hydrogène en parallèle. Et ce que le timing qu'on s'est donné, c'est de décider en 2025 quelle sera la bonne formule. Et aujourd'hui, on ne peut pas en préjuger. C'est pour ça qu'on en lance plusieurs.
Et quels seront les critères précisément à l'état-major d'Airbus qui feront que vous choisirez tel ou tel projet?
Alors, le critère dominant chez nous, c'est la sécurité. La première chose, l'aviation est un moyen sûr. L'aviation doit rester un moyen sûr, même si on change de carburant. Après, il y a des critères plus classiques qui sont des critères de performance. À quelle distance peut-on voler avec combien de passagers? Des critères économiques. Quel est le coût d'un tel avion? Quel est le coût de son système industriel? Donc, le nombre de critères est assez long. Et c'est justement cette analyse qui va devoir converger jusqu'à 2025 avec le fait de dérisquer l'hydrogène hydrogène entre-temps, qui nous amènera à décider quelle est la bonne formule.
Alors, plein de petites questions précises, Jean-Brice Dumont, parce qu'on est évidemment très curieux de ces nouveaux appareils dans lesquels on volera peut-être dès 2035. Est-ce que les ailes seront, comme je l'ai lu, plus fines, parce que l'équilibre de l'avion et l'aérodynamisme n'est pas tout à fait le même, si j'ai bien compris?
Alors, les ailes pourraient être, sur une formule plus proche des avions actuels, les ailes peuvent être effectivement plus fines.
Oui.
C'est plus le fait que la recherche dans le domaine des ailes et l'aérodynamique des ailes nous amène à penser des ailes plus fines, et c'est pas forcément lié à l'hydrogène lui-même. Ce qui est sûr, c'est que des ailes plus fines permettent un avion beaucoup plus performant et qui en fait du coup a besoin de moins de carburant pour voler.
Oui.
Et avec ce que je vous ai dit sur l'hydrogène précédemment, ça nous arrange. Donc on est déjà en train de rechercher des ailes plus fines depuis un moment. C'est la bonne formule pour les deux premiers qui dérivent d'avions existants aujourd'hui. Pour l'aile volante, c'est un peu moins le cas, parce que là, on a une grosse cellule centrale, avec des ailes plus fines, certes, mais qui ne représentent qu'une partie moindre de l'avion.
Jean-Brice Dumont, est-ce qu'on pourra faire le tour du monde avec ces avions, parce qu'ils consomment moins d'énergie? Alors, j'ai bien compris qu'il fallait plus de place dans l'avion pour loger la matière hydrogène, liquide, vous dites, mais est-ce qu'on pourra faire le tour du monde, ou ce sera uniquement pour des courts et moyens courriers?
Ouais, je pense qu'il est un peu prématuré de dire qu'on pourra faire le tour du monde avec. D'ailleurs, on ne fait pas le tour du monde avec le moindre avion aujourd'hui.
Mais non, mais justement, peut-être que demain, avec l'hydrogène, on pourra faire Paris-Sydney sans escale ou Paris-Sydney-Tokyo.
Bonne question. Bonne question. Je pense qu'on commencera par mettre l'hydrogène, compte tenu des contraintes que je vous ai évoquées,
oui,
sur des avions de plus courte portée, avec des rayons d'action plus transcontinentales. Et on recherchera l'utilisation maximum de biocarburants, d'autres façons d'émettre moins de CO2, les biocarburants ou des carburants synthétiques pour les avions plus longs courriers.
Et
maintenant, dans un deuxième
oui.
temps, les avions qu'on envisage type aile volante sont des avions qu'on peut éventuellement envisager plus gros pour faire des plus longues distances et pour aller vers les longs courriers que vous décrivez. Je ne pense pas, quel que soit le choix qu'on fasse, que ce sera notre première étape.
Bon, mais on a bien compris que chez Airbus, les A380 et les gros porteurs, ça c'était terminé de toute façon. Dites-moi, sur le prix des billets, est-ce que ça peut avoir un impact, cette nouvelle technologie? Parce que j'imagine que ça va coûter beaucoup d'argent à développer tout ça.
Une première précision, les longs courriers ne sont... L'A380 s'est arrêté, mais les longs courriers ne sont pas finis. Nous avons l'A350 qui vous fait Londres-Sydney aujourd'hui.
Oui.
Donc c'est attention à ne pas faire une confusion. Et pour ce qui est de l'économie de l'hydrogène...
Non, mais je parlais des super appareils avec énormément de passagers à bord.
Vous avez raison.
Sur le prix des billets.
Sur le prix des billets, difficile de prédire l'économie de l'hydrogène, parce qu'en fait l'hydrogène c'est une mutation de nos sociétés. On n'est pas le seul consommateur de l'hydrogène. Le monde du routier, le monde du ferroviaire, le monde du maritime, même l'industrie lourde sont en train de regarder comment opérer une mutation vers l'hydrogène comme une source d'énergie. Et c'est quand il y aura un grand nombre de clients de l'hydrogène qu'on pourra envisager de l'hydrogène à des quantités telles que les prix vont baisser. Donc pour l'instant il y a un petit peu un équilibre à trouver, un cercle vertueux à instaurer entre la demande et l'offre, qui fera baisser le prix de l'hydrogène dans un horizon pas trop lointain. Et donc c'est sur ça qu'on compte. Donc on n'est pas les seuls à devoir bouger. Le monde de l'énergie aussi, et d'autres consommateurs de l'hydrogène aussi.
Jean-Brice Dumont, pour terminer, est-ce que tout ça verra vraiment le jour? Est-ce que ça n'est pas, pardon, mais un coup de com' post-crise? Je vous pose la question parce qu'il y a quelques temps, on nous avait dit que l'avenir, ce serait l'électrique pour les voitures, pour l'avion, et aujourd'hui on nous dit c'est l'hydrogène. Est-ce que ça veut dire qu'on s'est trompé sur toute la ligne et qu'on a dépensé plein d'argent à développer des projets qui ne verront pas le jour?
Alors nous n'avons jamais dit que l'avenir était complètement électrique, parce que un avion électrique, ça ne vole pas. Un A320 électrique, ça ne vole pas, pour vous le faire simple. Donc nous avons beaucoup utilisé l'électricité et développé l'électricité
oui.
à bord dans nos projets, parce que l'électricité compte à bord, et il y en aura toujours. Mais ce que nous avons cherché, c'est quelle était la voie qui nous amenait vers le zéro émission. Et il n'y en a pas 10 000. Vous en avez fondamentalement deux. C'est des carburants bio ou des carburants qui sont dits alternatifs, ou l'hydrogène.
Bien, on prend date 2035, vous revenez à ce micro et on fait le premier vol ensemble.
On essaiera de revenir avant pour faire un point de passage.
J'espère bien. Merci beaucoup pour ces précisions. En tout cas, c'est passionnant et ça s'annonce fascinant pour les années à venir. Jean-Brice Dumont, vice-président exécutif de l'ingénierie chez Airbus, et vous étiez évidemment en direct depuis le siège d'Airbus à Toulouse. Merci à vous.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h30, le rappel des titres avec vous Simon Rubin.
Les négociations sont lancées à Béthune pour empêcher la fermeture de l'usine Bridgestone. 863 emplois sont en jeu. Aujourd'hui, les ministres du Travail et de l'Industrie ont réuni les acteurs du dossier pour tenter de trouver une alternative. Le gouvernement annonce demander une contre-expertise pour étudier toutes les pistes qui permettraient de sauver l'entreprise. Les syndicats disent ce soir conserver un petit espoir. Ouverture aujourd'hui de 7 nouveaux centres de dépistage Covid en Île-de-France, dont 4 à Paris. L'idée, c'est de soulager les laboratoires saturés, de permettre d'obtenir des résultats plus vite. À terme, la région prévoit d'ouvrir 20 centres de ce genre. Et dans le Rhône, interdiction des événements rassemblant plus de 1000 personnes dès demain 6h, annonce du préfet aujourd'hui. Cela concerne évidemment les salles de spectacle et les enceintes sportives. Les visites en EHPAD dans le Rhône et dans la métropole de Lyon seront par ailleurs limitées à 2 par semaine et par résident. L'ARS qui rappelle qu'il y a eu 43 décès de patients atteints du Covid-19 depuis le début du mois, alors qu'il n'y avait plus aucun décès en juillet et en août. En Espagne, on passe carrément à l'étape d'après avec un reconfinement par quartier dans les banlieues et grandes banlieues de Madrid. Plus de 800 000 personnes ne peuvent plus quitter leur domicile qu'en cas de nécessité. Deutsche Bank, ING, HSBC, de grandes banques internationales qui plongent en bourse aujourd'hui. La raison, c'est la publication d'une vaste enquête d'un consortium de journalistes qui révèle de nombreuses activités suspectes et même des cas de blanchiment d'argent. Enfin, l'acteur Michael Lonsdale est décédé à l'âge de 89 ans. Il avait joué notamment au cinéma pour Truffaut, Mocky, René. Et on se souvient aussi de son rôle dans Des hommes et des dieux qui retrace l'enlèvement avant l'assassinat en 1996 en Algérie de 7 moines cisterciens à Tibérine.
Oui, les moines de Tibérine. Merci Simon, l'info revient avec vous à 19h. La tendance météo avec vous Anissa, le tonnerre gronde encore demain.
Oui, le temps est encore agité demain sur la moitié sud avec des orages dès le début de la journée en Auvergne, sur les Alpes et en Provence. Dans l'après-midi, les orages vont se multiplier, ils pourront être violents par endroits. Au nord de la Loire, là rien à signaler, quelques brouillards demain matin. Et puis dans l'après-midi, sur la région parisienne, les Hauts-de-France, les Ardennes et l'Est, là il va faire très beau, profitez-en. C'est le dernier jour. Les températures, elles commencent à baisser avec 6 à 18 degrés demain matin du nord au sud et 17 à 28 degrés demain après-midi.
Merci Anissa, à tout à l'heure 19h pour un nouveau point météo.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h33, on ouvre comme chaque soir le débat des grandes voix avec à mes côtés en studio, dans le studio d'Europe Soir, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir. Bonsoir.
Et on parle pour commencer, messieurs, de cette révolution qui s'annonce dans le milieu très feutré de la magistrature. Le ministre Éric Dupond-Moretti a décidé ce matin de nommer une avocate pénaliste pour diriger l'École nationale de la magistrature. C'est une première, elle s'appelle Nathalie Roré, elle est avocate pénaliste donc et vice-bâtonnière du bureau de Paris.
L'idée, c'est d'abord d'ouvrir cette école, d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes et de dépoussiérer un certain nombre de choses qui me semblent passéistes et qui aujourd'hui ne sont plus de mise.
Alors c'est un secret de polichinelle, hein. Éric Dupond-Moretti ne supporte pas cette école de la magistrature dont il dénonce régulièrement une culture de l'entre-soi. Pourquoi Charles Villeneuve, ce changement est si important?
Parce que, à l'exception du Portugal, la seule école des juges de la magistrature, c'est la France, qui, de toute façon, ne cultive pas le doute. Et on l'a vu dans l'affaire Doutreau. Dans l'affaire Doutreau, rappelez-vous, c'était un problème d'abus sexuel sur des enfants dénoncé par une jeune femme qui s'est avérée avoir inventé quasiment toutes ces accusations pour un acquittement général à l'issue de 3-4 ans d'instruction où le juge Burgot a été ensuite muté. Et savez-vous qu'un syndicat de la magistrature a relancé l'affaire à propos des accusés mineurs dont ils espéraient qu'il allait être enfin condamné, 4 ans, 5 ans après, et qui a été à nouveau acquitté? Le président de la République, Jacques Chirac, le Premier ministre Dominique Villepin ont présenté leurs excuses à tous les parents, si vous voulez, de ces accusés, dont un s'était suicidé.
Et c'est pour ça que Dupond-Moretti parle régulièrement, il disait dans son livre que vous avez là entre les mains, de la dictature des juges. C'est ça qui met en péril la démocratie. Ce sont des mots assez forts quand même.
Mais vous savez, l'un des plus hauts magistrats français, Guy Canivet, a dit, si vous voulez, beaucoup plus. Il a dit qu'il y avait là une bureaucratie judiciaire dont personne ne contrôlait.
Oui.
Et c'est en effet... Si vous voulez, avocat, lui, avait déjà réfléchi. Il avait d'ailleurs été invité par le président de l'école, un juge, un magistrat, très bon magistrat que je connais d'ailleurs et qui est aujourd'hui le président du tribunal de Marseille, et qui lui avait demandé, à lui, évidemment, qui proférait beaucoup de critiques à l'égard de cette école du non-doute, de venir passer deux jours. Or, il l'a appelé, juste à la veille de son arrivée à l'école à Bordeaux, à l'École nationale de la magistrature, pour lui dire, écoutez, cher maître, cher ami, le directeur des études s'oppose à votre venue catégorique, donc vous ne pouvez pas venir. Et à partir de là, dans son livre, en effet, lui, son chapitre, si vous voulez, c'est le dictionnaire de ma vie, l'École nationale de la magistrature, l'intitulé, c'est « À supprimer », et l'arrêt pour effet majeur d'encaster de tout jeune gens dans un moule et un corporatisme dont ils ne sortiront jamais.
Oui, il dit que c'est l'école de l'entre-soi, parce que c'est vrai que les juges, alors on rappelle, sont chargés de dire le droit en rendant les décisions de justice dans les tribunaux, les procureurs défendent l'intérêt général et requièrent l'application de la loi, mais sont nommés par le pouvoir politique. Est-ce qu'il a raison, Gérard Carrérou, Dupond-Moretti, de s'attaquer comme ça à cette école de la magistrature ?
Tout à
Est-ce
fait.
Est-ce que c'est justifié, cette histoire de dictature des juges ?
Je vais essayer de vous le dire pourquoi, mais d'abord, c'est, si je lève un petit peu jusqu'à la décision de nommer Dupond-Moretti garde des Sceaux, c'est quelque part le contre-pied macronien. C'est-à-dire, on nomme pour diriger les juges quelque part quelqu'un qui était un peu la bête noire des juges, c'est-à-dire Acquittator, l'avocat à succès qui a élargi beaucoup d'accusés.
Acquittator, parce que 115 acquittements, voilà, je crois, pendant sa carrière d'avocat, ce qui est quand même inédit.
Ça, c'était le premier contre-pied de nommer Dupond-Moretti. Le deuxième... Alors, le premier était intéressant.
Oui.
Le deuxième me paraît tout à fait intéressant également. Le deuxième consiste à faire une sorte l'hirondelle qui précède le printemps judiciaire en nommant une avocate, une ancienne avocate, à la tête de ce fort Chabrol des magistrats. Et alors, y aura-t-il la question, mais je vais revenir sur l'école elle-même, le troisième contre-pied consisterait effectivement à aller jusqu'au bout de la logique et à faire qu'en France, comme dans beaucoup d'autres pays européens et anglo-saxons, on puisse former des jeunes gens et des jeunes filles à être indifféremment une partie de leur vie avocat, puis une partie de leur vie magistrat, ou le contraire. Oui. Ça existe aux États-Unis.
Et qu'il n'y ait plus de guéguerre entre les deux, comme c'est le cas aujourd'hui.
Évidemment, puisqu'on aurait la même formation. Bon,
parce qu'on a quand même un système judiciaire qui fonctionne, parce que Éric Dupond-Moretti, il jette l'opprobre sur l'ensemble des magistrats.
Non, mais il
ne
s'agit pas de jeter l'opprobre, en l'occurrence.
Mais vous avez vu ce que le communiqué sur l'enquête intérieure de l'inspection générale, c'est la guerre.
Ils sont vent debout, absolument.
Attendez, je n'ai pas répondu à la question qui était, est-ce que c'est vraiment l'école ? Bien sûr que c'est le fort Chabrol. Moi, je dirais l'école de la magistrature, dans sa conception telle qu'elle a fonctionné dans les 10 ou 15 dernières années, et on l'a vu à maintes reprises, c'est un peu l'école de formation des cadres du syndicat de la magistrature. C'est-à-dire que c'est l'école qui a, par
un cursus...
Une grande
partie de l'enseignement est aux mains d'enseignants du syndicat de la magistrature.
Exactement, par un cursus et par des choix de professeurs et par une formation, un corpus idéologique s'est créé et qui a fait que dans plein d'affaires qui ont défrayé la chronique, notamment quand elles avaient une coloration politique, on disait c'est encore les juges formés par l'école de la magistrature. Donc c'est devenu
une plaie. Des esprits,
Formatage des esprits. Et là, j'ai un homme à qui je pense que là, cette fois-ci, il est vraiment de bonne foi, qui prône l'ouverture des portes et des fenêtres.
Bien.
Qu'il le fasse.
Alors, on continue d'en parler juste après la pause, 18h40. On se retrouve dans un instant pour les grandes voix avec Gérard Carrérou et Charles Villeneuve pour parler de cette réforme, peut-être à venir, de l'école de la magistrature. A tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h42, on est toujours en direct. Europe Soir, avec le débat des grandes voix, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou ce soir à mes côtés. Et on parle de cette nomination de la part d'Éric Dupond-Moretti qui a décidé donc de nommer une avocate pénaliste pour diriger l'école nationale de la magistrature. Alors Charles Villeneuve, si on écoute le ministre Éric Dupond-Moretti, selon lui, les magistrats sont hors sol, déconnectés des citoyens, corporatistes. Est-ce qu'il exagère pas un peu quand même, le ministre de la Justice, là ?
Vous croyez que c'est exagéré quand vous n'avez aucune culture de doute et qu'à 25 ans, vous prenez des décisions qui impliquent la vie de beaucoup de justiciables ? Moi, je pense que le président, pour revenir d'ailleurs sur ce que disait au début Gérard Carrérou, je pense que le président de la République, en choisissant Éric Dupond-Moretti, sans le dire, sait qu'il a un problème de fond aujourd'hui dans la magistrature, c'est qu'il se pense au-dessus du pouvoir exécutif et législatif. On peut vouloir réformer, si vous voulez, l'École nationale de la magistrature, c'est dans la fonction de ministre, d'avoir une politique de formation des magistrats. Et la justice n'est pas une constellation de mauvaises habitudes. C'est ce qu'il veut dire quand dit, et que vous citez la phrase. Mais il faut savoir que, à l'exception du Portugal, là, toutes les écoles européennes, en Suisse, en Belgique, et même au-delà, au Canada, en Angleterre aussi, la plupart des écoles qui forment les juges sont des anciens avocats. Et donc, si vous voulez, je pense qu'il s'en est inspiré, justement, pour essayer d'inoculer, en quelque sorte, si vous voulez, comme on le fait d'un vaccin, la culture du doute. C'est très important, la culture du doute. Et il s'est appuyé aussi sur l'opinion de plusieurs hauts magistrats, qui sont d'anciens magistrats, qui sont aujourd'hui honoraires, bien sûr, qui ne sont plus en activité.
Et puis, il dit autre chose, Éric Dupond-Moretti, on terminera peut-être là-dessus, Gérard Carreau, il dit qu'ils doivent rendre des comptes quand ils se trompent. Ils fuient leur responsabilité, les juges.
Ah bah là, par exemple, il y a une belle occasion, effectivement, de rendre des comptes. Fadettes. C'est qu'on parle beaucoup, et on a à juste titre, de cette décision de nommer une femme avocate, ex-avocate, à l'école de la magistrature, à la tête. Mais on devrait aussi souligner largement ce soir les poursuites qui sont engagées contre un certain nombre de magistrats dans la fameuse affaire des fadettes.
Oui.
Bon, l'affaire est trop longue pour que je puisse y entrer.
C'est-à-dire que, Gérard, une petite correction, il n'y a pas de poursuite, c'est une enquête administrative.
C'est une enquête, mais enfin, pour les gens, ça reviendra à
une enquête. Pour l'instant, il n'y a pas de décision.
Non, mais tu as raison, c'est une enquête. Donc, effectivement, il faut demander des comptes aux juges. Mais si vous voulez, moi, je ne veux pas parler en théoricien, je veux parler simplement en praticien. Je vais vous donner un exemple que je tire de ma famille. Mon beau-frère, j'ai un beau-frère américain, il est sorti de l'université de Yale avec ses diplômes de droit. Oui. Il est entré immédiatement après auprès du district attorney de New York, Giuliani d'ailleurs, qui a fait carrière largement après. Il a été un des adjoints de Giuliani pendant de longues années, après quoi il est devenu avocat. Et peut-être aujourd'hui, il ne le dit pas vraiment, mais il espère bien qu'un jour, peut-être, il pourrait redevenir juge, peut-être, non pas à la Cour suprême, mais
des passerelles.
Ça veut dire que quand on a été dans les deux fonctions, on ne voit pas les choses
de la même manière.
C'est pour ça qu'on dit toujours, les juges, ils poursuivent toujours à charge et non pas à charge et à décharge.
Oui.
Et ben c'est aussi parce qu'ils ont été formatés comme ça.
Bien. Un dernier mot, Charles ?
Oui, je vais prendre un exemple français. Le juge d'instruction à Alès, qui m'interrogeait lorsque j'étais à TF1 sur des reportages, me dit « Rachida Dati, garde des Sceaux, a introduit un stage d'avocat à l'École nationale de la magistrature. » Eh bien, quand je l'ai fait, j'ai eu des nausées, M. Villeneuve. C'est vous dire, si vous voulez, que l'avocat, pour eux, c'est ceux qui absout le crime.
Oui. Bien.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
On poursuit avec la politique, la ligne de départ qui se précise pour 2022. Il pourrait être les empêcheurs de tourner en rond d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, dont le duel polarise l'attention. À gauche, Anne Hidalgo, qui commence à se positionner, alors qu'à droite, Xavier Bertrand passe à l'offensive. Il était d'ailleurs hier l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1.
Il faut être candidat pour présenter un projet de société. Vous savez ma détermination à être candidat, donc je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Il serait temps dans notre pays qu'on, d'une certaine façon, on dise oui à quelqu'un et à un projet et qu'on arrête de dire non seulement à l'extrême droite.
Voilà, il y croit dur comme fer, hein, Xavier Bertrand, on l'entend. Est-ce qu'il peut incarner un renouvellement ? Certains de ses adversaires à droite disent de lui qu'il n'a ni, c'est pas très sympa, hein, il n'a ni la sagesse de Juppé, ni la fraîcheur d'un Emmanuel Macron. Cela fait 20 ans, disent-ils, qu'il fait de la politique et qu'il est élu.
Oui, mais c'est bien pour lui d'être attaqué, parce que ça prouve qu'on commence à le prendre au sérieux.
Au sérieux,
oui,
c'est une alternative
crédible.
Et bien
évidemment, il a marqué plusieurs points importants depuis peu de temps. Pourquoi ? Premier point important, peut-être essentiel, c'est que le favori de toute la famille de la droite républicaine pour le poste de candidat à la prochaine, c'est François Baroin. Mais comme on a l'impression, beaucoup en tout cas, on a l'impression
qu'il semble se défiler,
que Baroin se défiler ou se dissoudre dans les nuages du bonheur, à ce moment-là, Bertrand apparaît comme le plus sérieux challenger. Et puis deuxièmement, il est porté par l'actualité avec l'affaire de Bridgestone. Et troisièmement, dans sa région, alors il faut qu'il soit réélu s'il veut jouer un rôle important après, mais s'il est réélu...
Pour les régionales en mars 2021.
Et c'est dans quelques mois. Et il est là, il travaille comme un fou, il a créé une espèce de think tank qui s'appelle La Fabrique. Oui. J'ai un de mes anciens collaborateurs qui travaille avec lui, et je peux vous dire que sa fabrique dure, là. Donc, il est un peu l'étoile montante.
Bien, il paraît qu'en privé, le président dit de lui qu'il n'est pas fiable. Voilà, vous me répondrez dans un instant.
Le président
de la République. Il paraît qu'il dit ça de Xavier Bertrand, oui, qu'il n'est pas fiable.
Ah ben ça, il ne pourrait pas dire le contraire entre nous. Bon. Parce que justement, depuis sa déclaration comme candidat à la présidentielle en Corse cet été, depuis à l'Élysée, moi je peux vous dire qu'il surveille de très près l'itinéraire et les déclarations de Xavier Bertrand.
Alors, Xavier Bertrand, alternative pour la droite en 2022, on en parle dans quelques secondes, à tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h51, on est toujours ensemble avec les grandes voix, à mes côtés en studio d'Europe Soir, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, et on parle de l'hypothèse Xavier Bertrand qui avance ses pions en prévision de la présidentielle de 2022. Alors Charles Villeneuve, on sait qu'à droite, c'est lui, c'est vrai, qui en a le plus envie. Dixit d'ailleurs Rachida Dati, qui le rappelle régulièrement. Mais sa popularité chez les électeurs LR, il n'est qu'à 18% contre 26% pour Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, par exemple. Est-ce qu'il peut créer la surprise, Xavier Bertrand ?
Moi, je l'intègre pas dans une hypothèse de surprise. Je l'intègre plutôt, de la même manière d'ailleurs, j'intègre aussi Anne Hidalgo à gauche, dans une hypothèse, si vous voulez, capable de rogner par les deux bouts le socle d'Emmanuel Macron.
Oui.
Hidalgo à gauche et Xavier Bertrand, chantre social, puisque c'est ça son créneau, c'est le social.
Oui.
Et d'ailleurs, il avait gagné contre l'extrême droite les Hauts-de-France, la région des Hauts-de-France, en prônant le social. Et c'est vrai qu'il fait beaucoup de social dans les Hauts-de-France.
Oui.
Pour lui, sa primaire, il l'a dit d'ailleurs justement en Corse, à déclaration à laquelle je faisais allusion tout à l'heure. Pour lui, sa primaire, ce sont les régionales d'avril 2021. Et si ces régionales lui sont favorables, je pense qu'on aura des difficultés à l'arrêter. Mmh. Et d'ailleurs, arrivent aussi les premiers ralliements. Rachida Dati, Damien Abad, Guillaume Pelletier, depuis 2-3 jours. Et un rendez-vous d'ailleurs avec Nicolas Sarkozy que lui prépare Rachida Dati.
Alors, vous savez ce qu'il dit de lui, François Bayrou, à propos de sa victoire justement que vous évoquiez au régional. C'est un petit tacle contrôlé. Hein. Le président du Modem, il dit il a été élu à la présidence de sa région avec le soutien, c'est vrai, hein, de toutes les forces politiques républicaines contre l'extrême droite. Et aujourd'hui, il déchire ce pacte.
Oui, bah écoutez, c'est un tacle politique, j'y accorde peu d'importance.
Bon. Mais sur
simplement,
le positionnement politique, sur quel positionnement peut-il
y
aller ?
Ce qui est important, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de tribuns de la plèbe, si vous voulez, c'est-à-dire de gaullisme populaire. Or, Xavier Bertrand...
Il en est un, selon vous.
Il représente... Regardez le personnage. C'est tout le contraire d'un énarque.
Oui.
Il n'a pas été énarque.
Non, ancien assureur, il vient de la société civile.
Il a la tripe assez populaire. Et effectivement, ça a joué d'ailleurs dans sa région. Il est plutôt de cette souche-là, c'est-à-dire cette droite qui est plus droite gaulliste sociale, si vous voulez. Et à mon avis, il a du grain à moudre s'il joue là-dessus. Je crois qu'il jouera là-dessus.
Je ne sais pas si vous vous souvenez, avant qu'il aille candidater au régional des Hauts-de-France, il était un peu, comment dirais-je, impopulaire. Il avait raté son virage politique. Et puis, ses conseillers lui ont dit « Tu devrais te lancer au régional. Si tu gagnes les Hauts-de-France et que tu ravives les Hauts-de-France au Front National, tu peux renaître. »
Oui, mais bien sûr, il faudra qu'il le redémontre une deuxième fois. Il faut qu'il se fasse réélire brillamment dans les Hauts-de-France. C'est ses primaires à lui. Mais je voudrais quand même vous avez dit Hidalgo. Je ne sais pas si on aura le temps de parler d'Hidalgo. Mais Madame Hidalgo, c'est moins net parce que Bertrand, maintenant, tout le monde sait qu'il est candidat. Il l'a martelé encore sur Europe 1 dimanche matin.
Oui.
Mais Madame Hidalgo, elle, c'est tout le contraire. Elle ne dit pas qu'elle sera candidate. Mais tout
le monde. Elle le laisse un peu entendre.
Oui, mais elle dit. Gérard, elle ne dit Charline. Plus qu'elle ne sera pas candidate.
Mais elle ne dit plus, voilà.
Mais
elle
quand
ne
même,
dit
quand
plus
même,
qu'elle
messieurs,
sera.
26% des Français estiment qu'elle ferait une bonne candidate pour la gauche. Là,
elle peut devenir la Madone, si vous voulez, des écolos-socialos. Celle qui fait l'union de la gauche avec une grosse part d'écologie. Et elle a fait, au fond, ça serait faire en France ce qu'elle a fait à Paris.
Charles Villeneuve.
Mais c'est pour ça qu'elle peut complètement assécher le en même temps de gauche
du
président. Mais pour revenir à Xavier Bertrand, son créneau est très simple. Il est tout ce que n'est pas, de toute façon, Emmanuel Macron, le chef de l'État. C'est-à-dire non seulement social, mais sécuritaire aussi.
Il l'a dit d'ailleurs, s'il avait l'angle de la sécurité, s'il était préoccupé à ce que ressentent les Français, le président de la République, il aurait pris l'angle sécuritaire. Or, et sur le séparatisme et sur le sécuritaire, c'est vrai que jusqu'à présent, le sera-t-il peut-être, puisqu'il va prononcer un discours dans peu de temps, le chef de l'État.
Qu'il a repoussé encore.
Ça fait beaucoup de temps qu'il repousse.
Oui. Merci messieurs, merci Charles, merci Gérard.
Europe 1, Julien Bugier.
Et on se retrouve dans quelques secondes avec le journal de 19h. Et juste après, comme chaque soir, on ouvre le Club des idées. Ce soir, on s'arrête sur l'affaire Laetitia Perret qui avait ému la France. À tout de suite.